Allô, oui, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris.
D'accord.
Vous êtes prête à répondre à nos questions?
Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
L'œil à l'écoute, c'est... Un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
L'œil à l'écoute, c'est...
Un pied en Seine-Saint-Denis.
Un micro ouvert sur le quotidien. C'est le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9.
L'œil à l'écoute, c'est surtout...
60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
Ça va être difficile parce que l'émission, c'est une émission radio.
Pardon, je comprends pas ce que vous dites.
L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf.
Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste. C'est mal.
J'ai déjà été victime d'un acte raciste. Si quelqu'un vous a déjà traité de...
Des fois dans les vies.
On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal.
À Aubervilliers, dans le 9-3.
Avec Radio Campus Paris, Rosa, lundi 4B, Aubert 9-3, 300, Aubert discrimine, l'émission qui combat les clichés, le racisme et l'intolérance. Dans le 9-3, sur le 9-3.9 FM, ma couleur noire, blanc.
Aubervilliers.
Et enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre, d'accueil de la France?
Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal.
I have a dream.
Du reportage,
des chroniques,
du fun, du rire, de la musique, des poèmes.
But one day, this nation will rise up.
Des lectures,
du rire,
live out the true meaning of its creed.
Des blagues.
Des interviews,
music live,
contre le racisme,
l'antisémitisme,
la haine
et l'indifférence.
Depuis le 93.9 sur Radio Campus Paris.
Lundi, 4B, Aubert discrimine, ça passe crème.
La base. Collège Rosa Luxembourg, à Aubervilliers, suicide la famille.
Wesh les Reyou del Reyou, bienvenue sur Aubert discrimine, l'émission qui boit du Sprite sa mère. Nous sommes un groupe de jeunes d'Aubervilliers, on fait un projet radio au musée de l'histoire de l'immigration, et vu que ça touche pas mal de personnes, on a décidé de faire une émission sur le racisme. Le racisme est une menace qui divise toutes les communautés, c'est pour ça que nous luttons contre ça aujourd'hui dans cette émission, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Dans le groupe il y a Thelma,
Wesh la street,
Sokona,
ouais,
Sophia,
hi,
Hamed,
I like to move it, move it.
Wasila,
ouais,
Ayoub,
Bioko,
Franck.
Hello, guys.
Et à la réalisation, il y a Yaya et Chia. Ouais. Dans le sommaire aujourd'hui, voilà ce qu'on va trouver. Un micro-trottoir sur la question de c'est quoi le racisme, l'interview de Naoufet, porte-parole du collectif Stop le contrôle aux faciès et de l'association Assez le feu, une chronique sur l'affaire Adama Traoré, l'interview de Wee Wang, porte-parole de l'association des jeunes chinois de France, une deuxième chronique cette fois sur l'origine du mot bamboula, un reportage au musée de l'histoire de l'immigration, l'interview de Nihad Janaïd qui rend le prix littéraire de la Porte Dorée, et bien sûr à la fin, nous vous réserverons quelques poèmes. Et on commence tout de suite par un micro-trottoir présenté par Sophia.
Bonjour, pour commencer cette émission, je vous présente notre micro-trottoir. Il a été fait dans la rue, à Aubervilliers, juste à côté du collège Rosa Luxembourg. Nous avons demandé à des inconnus, selon eux, ce qu'était le racisme et l'antisémitisme, et aussi s'ils avaient déjà été victimes ou témoins d'un acte raciste.
Est-ce que vous avez déjà été victime ou bien témoin d'une scène raciste ?
Non, oui, ça arrive.
Ouais, ça arrive plus où ?
Un transport en commun, ça arrive dans la rue, ça arrive un petit peu partout en fait.
Victime, oui, dans mon enfance, hein, parce que j'étais d'origine espagnole. Et donc, comme je suis née en 54, à cette époque-là, c'était très très raciste, hein, même avec les Blancs, quoi.
Et donc, ils vous ont agressé?
Agressé, non, mais c'était des agressions psychologiques. Hein, donc, c'est pareil, hein, c'est même des fois pire.
Une agression raciste?
Non, je crois
jamais.
Pas, non, non.
D'accord.
Non.
Non.
Jamais de
votre... Non, j'ai jamais.
Jamais.
comme ça. Non, pas du tout. Jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans dans le quartier. J'ai pas de problème avec les gens. Je respecte tout le monde me respecte.
À l'embauche. À l'embauche, disons que j'étais à la recherche, enfin j'étais en alternance, à la recherche d'un emploi en alternance pour mes études. Et j'ai passé un entretien dans un cabinet de comptable, parce que je fais des études de comptabilité. Et bon, l'entretien s'est très bien passé, voilà. J'avais pas compris pourquoi on m'avait refusé. Bon, sur le coup, on m'avait dit rendez-vous la semaine prochaine pour une réponse. Mais j'ai pas eu une réponse en fait. Et j'ai attendu une semaine après, on m'a dit on est désolé, on a trouvé une personne le jour même. Bon. Et en fait, j'avais une amie qui travaillait là-bas justement. Et je lui demandais d'enquêter pour savoir pourquoi on m'avait pas accepté. Et elle est revenue la semaine d'après, elle m'a dit écoute, je suis désolé de te dire ça, ça va peut-être pas te plaire, mais c'est à cause de mes origines, tout simplement. Malgré que je suis français, mais d'origine algérienne. Quoi.
Je connais quelqu'un, et c'est à l'hôpital, et sa femme, elle est voilée. Et voilà, ils l'ont mal accueillie, voilà. À cause que... Parce que sa femme, elle était voilée, voilà.
Si vous avez déjà été victime d'un acte raciste.
J'ai déjà été et témoin et victime.
Et vous pouvez nous raconter comment c'était ?
Étant donné que moi je suis quelqu'un issu du métissage, je suis victime, on va dire, de racisme en plus des deux camps. Étant donné que pour les noirs, je suis pas un vrai noir et que pour les blancs, bah, je suis pas un vrai blanc. T'es pas un vrai noir, oh mais t'es pas blanc. T'es ni l'un ni l'autre.
D'accord.
Donc voilà. Mais bon, c'est rien du tout ça, c'est que des mots.
Merci Sophie. Je laisse la parole à mon camarade. Ce micro-trottoir a été fait par la rédaction d'Aubert Discrim.
Merci Sophia. Et maintenant, Thelma va parler de l'interview de Naoufel.
Wesh la street, je vais vous présenter Naoufel. Il est membre du collectif Stop le contrôle au faciès et aussi de l'association Assez le feu. Le contrôle au faciès, c'est d'interpeller les gens sans raison par leur couleur de peau. Naoufel est bénévole dans ce collectif qui existe depuis 2005. À l'époque, deux jeunes de banlieue Ziad et Bouna sont décédés dans un compteur électrique car ils avaient peur et ils fuyaient la police. On l'écoute tout de suite.
Je travaille dans une association qui s'appelle Assez le feu au départ. Et donc nous, dans le collectif Assez le feu, il faut savoir qu'en 2005, il y avait des jeunes à Clichy-sous-Bois qui étaient en train de jouer au foot. Et à un moment donné, il y a eu la police qui sont venus pour les contrôler. Eux, ils n'avaient rien fait. Et c'était le soir du Ramadan. Ils voulaient rentrer chez eux pour aller manger avec les parents. Et donc du coup, ils ont couru et ils sont cachés dans un transformateur EDF. Et ils sont électrocutés. Il y en a deux qui sont morts sur le coup. Et après, ce qui s'est passé, c'est que toutes les villes de France, tous les quartiers populaires que vous connaissez, Clichy-sous-Bois, Aubervilliers, Saint-Denis, Pantin, toutes ces villes-là, partout où il y avait des jeunes, ils sont tous révoltés, ils sont tous descendus dans les rues pour dire « Stop, nous on ne veut plus subir des choses comme ça. On ne veut plus être victime du racisme. On ne veut plus subir les inégalités. » Et donc nous, chez nous, à Clichy-sous-Bois, bah, c'est ce qu'on a essayé un peu de faire un peu. C'est d'accompagner les jeunes. On va deux semaines dans le sud, on reste avec eux, on fait parfois les devoirs.
Quand a été créée cette association et par qui ?
L'association Assez le feu, ça a été créé en 2005 par les jeunes des quartiers, par les jeunes de Clichy-sous-Bois, justement. Et Stop le contrôle au faciès, c'est des gens d'un peu partout, comme nous. Des gens qui viennent des quartiers. Et donc ces gens-là, au bout des moments, ils en ont eu marre aussi de se faire contrôler pour rien à chaque fois et de voir qu'à chaque fois, il n'y avait pas de condamnation, qu'à chaque fois, il n'y avait pas de poursuite. Et donc du coup, ils ont créé ce collectif-là avec des associations comme nous, des rappeurs, parce que dans le collectif Contrôle au faciès, je ne sais pas si vous regardez mon premier contrôle, il y a par exemple Mac Taylor, Sofiane, Soprano, Olkari, pour les plus anciens, Alibi Montana. Et en gros, c'est... Toutes ces personnes-là, elles se regroupent au sein d'un collectif, justement, le collectif Stop Contrôle au Faciès, pour lutter contre tout ça.
Pourquoi les policiers contrôlent plus souvent des Noirs et des Arabes ?
Il y a plusieurs types de contrôles. C'est-à-dire que si on appelle la police, on dit « Ouais, on recherche un jeune homme avec un truc Nike, orange et des cheveux en l'air. » Si vous descendez dehors, que vous faites contrôler, donc du coup, là, c'est pas un contrôle au faciès, parce qu'on vous a décrit. Mais par contre... S'ils commencent à vous frapper, à vous insulter, etc., là, ça devient un contrôle abusif. Tu comprends ? Et par contre, si lui, par exemple, il sort dehors et qu'il se fait contrôler alors qu'on n'a même pas appelé la police pour dire qu'il a fait quelque chose ou rien, bah là, c'est purement un contrôle au faciès. Parce qu'on va prendre le fait que, voilà, il est un peu bronzé, et donc du coup...
Quelles sont les conséquences du contrôle de nos faciès?
Bah en fait, moi je vois deux conséquences, en fait. Une première conséquence, chez les gens qui sont contrôlés, c'est-à-dire que quand tu te fais tout le temps contrôler, bah au bout d'un moment, t'as plus envie de te faire contrôler, donc du coup... t'es frustré et tout, et parfois tu te sens humilié et tu te dis mais pourquoi il me contrôle, il me prend pour un délinquant ou quoi, lui j'ai une tête de délinquant, tu te poses la question, tu te regardes, tu te dis je ressemble à une racaille, j'ai fait quelque chose de pas bien, pourquoi il vient tout le temps me contrôler. C'est humiliant et frustrant déjà, d'une part, déjà pour les personnes qui se font contrôler. Après il y a une deuxième conséquence qu'on dit pas assez, c'est que en fait la police elle est là pour nous protéger.
Depuis qu'il y a l'affaire Théo là, il y a une petite phrase qui dit
L'affaire Adama Traoré et Théo me rappelle pourquoi Zedebouna ils ont couru. Donc du coup, bah, en fait, il y a des gens aujourd'hui, même s'ils n'ont rien fait, mais s'ils voient la police, ils vont courir. Et donc du coup,
quand tu commences à courir, bah,
la police elle va te courser parce que peut-être elle va soupçonner à ce moment-là, etc. Et donc du coup, ça, voilà, il y a une incompréhension déjà. Donc du coup, moi, c'est la première conséquence déjà. Et c'est pour ça que nous aussi, on est là, justement. On est là pour dire aux policiers, oh, attendez.
Que faites-vous dans votre collectif pour lutter contre ça?
Nous, dans notre collectif, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. C'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous ai parlé du numéro qui est mis en place, que je vous donnerai tout à l'heure. Donc du coup, si vous êtes victime d'un contrôle au faciès, vous pouvez appeler ce numéro-là. On vous répondra, on essaiera de donner des suites à votre intervention. Et il y a aussi, en plus du numéro, ce qu'on appelle des maraudes. C'est-à-dire qu'on part voilà, dans les villes, avec nos t-shirts, etc. On s'arrête, on parle avec les gens, on leur explique c'est quoi les contrôles aux faciès et qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils sont victimes d'un contrôle aux faciès. Il y a aussi des actions qu'on fait, par exemple, avec les gens des associations, où on leur apprend à comment mener une action, comment faire une manifestation, comment faire un communiqué de presse, comment faire une conférence, comment organiser un événement. Et en gros, on fait tout ça pour essayer de lutter contre le contrôle au faciès. C'est-à-dire que nous, parfois, bah, moi, je fais une intervention devant vous aujourd'hui. Bah, il y a deux jours, deux de mes camarades, ils étaient en train d'expliquer ce qu'on fait sur BFM. Et en gros, bah, en fait, le collectif, on essaie de mener plein de petites actions comme ça pour essayer d'améliorer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des porte-parole, c'est-à-dire ils répondent aux médias, etc. Eux, ils sont là pour justement exposer, on va dire, pour défendre notre cause. Il y a des gens qui font des maraudes, c'est-à-dire même eux, ces gens-là, ils peuvent, on va dans les rues, on s'arrête avec des petites feuilles, on prend qui vous êtes et tout, on discute un peu avec vous, c'est quoi le contrôle au faciès. Et en fait, on a un numéro, donc du coup, toutes les personnes qui sont victimes d'un contrôle au faciès, ils appellent sur ce numéro-là. Et donc du coup, nous, on traite la demande, c'est-à-dire qu'on prend la plainte, on discute un peu avec vous, on vous demande c'était où que vous êtes fait contrôler, pourquoi vous êtes fait contrôler. Et en gros, l'association, ce qu'elle a fait, c'est que elle a regroupé plein de plaintes comme ça, et elle a porté 8 en justice. Et donc les 8 en justice ont été défendues, et le 9 novembre dernier, bah, l'État français a été condamné pour la première fois pour contrôle au faciès. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existe pas. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais prouver que vous avez été contrôlé au faciès. C'est-à-dire que voilà, ça n'existait pas. Bah, là, pour une fois, en novembre dernier, l'État français, il y a des juges qui ont condamné l'État pour contrôle au faciès. En fait, voilà, si vous êtes envoyé contrôle par SMS, notez 0660... 19, 33...
660.
Oui, 19, voilà, 33, 81.
C'était Naofel du collectif Stop le contrôle au faciès. Si un jour vous avez besoin de le contacter parce que vous avez des problèmes à cause d'un contrôle au faciès, n'hésitez pas, il le faut, c'est important. Voici leur numéro, 07 60 19 33 81. Je répète, 07 60 19 33 81. Vous pouvez aussi contacter le collectif par mail. stof@gmail.com.
Merci Thelma. Et tout de suite, je laisse la parole à Ayoub qui va nous parler de l'affaire Adama Traoré.
Miskine Adama Traoré a été tuée par les policiers par un lourd plaquage au sol, sa mère suivie de techniques de combat très dangereuses. Les policiers, eux, mentent en disant qu'il avait des problèmes respiratoires. Mais les deux médecins qui l'ont examiné après sa mort n'ont trouvé aucune trace de maladie cardiaque. Avant la réponse des deux médecins, les sœurs et les frères d'Adama ainsi que sa mère ont dit qu'Adama n'avait aucun problème de santé. Mais heureusement qu'un frère du nom de Bagui a été témoin de l'arrestation d'Adama. Adama Traoré est né le 19 juillet. Il est mort le jour de son anniversaire à 24 ans. Il habitait à Beaumont-sur-Oise et sa mort a provoqué de lourds problèmes, par exemple des rassemblements pour lui. Surtout organisés par ses sœurs, Assa Traoré et Awa Traoré. La sœur d'Adama, Awa Traoré, a dit « Je ne vais pas vous mentir. On ne sait rien. Il faut savoir qu'on ne nous a jamais appelés pour nous prévenir du décès d'Adama. On a dû se battre pour qu'on nous le dise. Il a fallu qu'on se rende au commissariat et on nous a menti à 3 reprises. On nous a d'abord dit qu'il était à l'hôpital, puis qu'il était en cellule et qu'il était rentré en contact avec son avocat, alors qu'ils ne l'ont jamais appelé. Mais surtout, Adama n'a jamais signé de papier en entrant en garde à vue, alors que c'est obligatoire. Il n'a pas pu le signer, ce papier. Il était déjà mort. Les papiers ont été rédigés après sa mort. Maintenant, je vous laisse écouter Dooms et sa chanson Adama Traoré, qui va vous raconter son combat en musique.
Merci Ayoub. Voici là, on écoute quoi maintenant ?
Alors, le 19 juillet dernier, Adama Traoré soufflait ses bougies pour la dernière fois. Il a perdu la vie à seulement l'âge de 24 ans, dans de très sombres circonstances, suite à un contrôle de la gendarmerie, comme l'a rappelé Ayoub. Le chanteur Dooms, un jeune rappeur français originaire de la même ville, à Beaumont-sur-Oise, était un proche d'Adama. Il a décidé de lui rendre hommage avec une chanson qui porte son nom, et où on entend Assa Traoré, la sœur d'Adama, au début de la chanson. C'est en prison que le chanteur a appris la triste nouvelle de la mort de son ami.
Adama, mon petit frère, a été tué, en tout cas retrouvé mort dans les locaux de la gendarmerie le 19 juillet, le jour de son anniversaire. Les circonstances de sa mort sont atroces, difficiles à raconter, mais il faut qu'on la raconte, en tout cas pour qu'on puisse avancer dans la justice et vérité. Donc ça se passe au centre du de Beaumont.
Ta voix cellulaire résonne encore dans ma tête. Adé, je te citais dans chacun de mes textes. Mon cœur saigne et perd, je ne peux rien y faire. On parle au tel de se revoir cet hiver. Adé, mon frère, t'es dans les faits divers. Mais comment je vais faire? J'apprends ça, je mes fers. Comment il va, tu m'énerves? On parle de toi, je m'énerve. Première à m'assurer quand je suis tombé, c'est toi. Du mal à voir, je reverrai plus d'ici. Pas, t'étais plus qu'un bras, t'étais plus qu'un brave. Toujours souriant, c'était toi, Adama. La police a fait une bavure, sans s'en décaler. Et on va s'allumer, comme le cartel de Calais. Inventer qu'il est malade, qu'il est parti de maladie. On sait que vous l'avez tué, mais du mal à le dire. Temps sur l'esprit, j'ai plus de rêve la nuit. Des millions d'ennuis, des millions d'ennemis. Faut qu'on s'évade d'ici, j'ai mal à la vie. On n'a rien choisi, c'est tout qui est écrit. On n'a rien choisi, on va tous partir. Avec ou sans envie, on va tous partir. En cas de bourbier, c'était premier à bouger. Premier à se mouiller, quitter et laisser sa vie. Vaillant comme toi, Adé, y'en a pas nu. Des souvenirs en photo, j'ai besoin de me couvrir. Maintenant avec nos tours, rien ne se de courir. La mort nous guette de haut, on reviendra au très haut.
Adama, une étoile en plus dans le ciel. T'es parti depuis, je ne suis plus le même. Je donnerai toute ma vie pour que la tienne revienne. C'est Dieu qui donne tous années qui fait mère. Sans justice, ils n'auront jamais la paix. Ils t'ont abattu, ils m'ont laissé me noter. On leur fera la guerre jusqu'à que je suis sa fête. Mon ciel est beaucoup trop loin pour faire la fête.
Adama, une étoile en plus dans le ciel. T'es parti depuis, je ne suis plus le même. Je donnerai toute ma vie pour que la tienne revienne. C'est Dieu qui donne tous années qui fait mère. Si tu nous vois, j'espère que tu es fier de nous. On s'est serré les coudes depuis que t'es parti, je ne sens plus.
C'était Adama Traoré de Dooms sur Aubert Discrim. Vous êtes sur le 93.9.
Merci Wassila. C'est à Sokona de nous présenter l'interview de Hui Wang maintenant.
Salut les gens. Aujourd'hui, je vais vous présenter Hui Wang. Il est le président de l'Association des jeunes chinois de France, qui se situe à Aubervilliers. Ils sont intervenus après la mort d'un couturier, Shaolin Zhong. C'est un monsieur qui a été agressé par des jeunes qui s'en prenaient à chaque fois à des hommes et des femmes de la communauté chinoise d'Aubervilliers. Parce qu'il pensait que, comme il était chinois, c'était des cibles faciles et qu'il avait de l'argent sur eux. Shaolin Zhong est mort cet été à cause de l'agression. Cette association consiste à lutter contre le racisme envers les Asiatiques et maintenant nous allons écouter cette interview.
Quelle est votre association ?
L'association des jeunes chinois de France réunit en réalité des Français d'origine chinoise, des jeunes, on va dire, entre 17 et la trentaine. Elle a été créée en 2009.
Travaillez-vous dans cette association car vous avez déjà été victime d'un acte raciste ?
Je suis dans cette association pas uniquement parce que j'ai vécu le racisme. J'en ai vécu pas un acte, en fait. Moi, je n'ai pas été agressé physiquement, mais j'ai souvent entendu des agressions verbales, ou c'est ce que j'appelle des agressions symboliques.
Comment faites-vous pour lutter contre le racisme ?
Déjà, en parler, c'est pas mal. Donc ici, c'est une bonne opportunité. En parler, c'est pas mal. Réfléchir sur ce qu'on dit nous-mêmes, sur ce qu'on fait nous-mêmes, parce que parfois, on peut nous-mêmes subir le racisme et être raciste, agresser d'autres personnes. Et le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que une agression raciste c'est pas forcément un coup de poing. C'est pas forcément des coups physiques qui créent une blessure physique. Ça peut être des mots, des moqueries. Ça peut être, par exemple, isoler quelqu'un, faire exprès de pas le mettre dans le groupe, ou dire des choses qui font qu'il va se sentir mal. Et ça peut avoir des répercussions pendant très longtemps. Et ce sont aussi des agressions racistes. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à le montrer, parce que quand on vous a dit quelque chose, à part dans votre mémoire, on peut pas le retrouver. Alors que quand on vous agresse, on vous donne un coup de poing, on peut retrouver la trace. Une phrase qu'on vous a dite, ça peut vous perturber pendant très très longtemps. Et c'est ça qui fait que nous sommes, travaillés, nous sommes blessés parfois, ou nous avons envie de lutter, de nous battre contre le racisme, parce que ce sont des expériences dans le passé qui ont fait, qui font que nous avons envie de faire quelque chose.
Est-ce que du coup, les victimes, entre guillemets, d'agression, bien de racisme, est-ce que du coup ils viennent sur les réseaux sociaux pour en parler avec vous ?
Non, c'est rare, parce que ce sont des choses qui sont profondes et parfois en fait on est victime et on ne le sait pas. Ou alors on n'ose pas le dire. Ou alors on l'accepte. Et donc ce sont des... Surtout quand je parle d'expérience en fait, ce sont vraiment des choses qui sont assez difficiles. On a reçu un mail une fois, mais c'était vraiment une agression physique. Et sauf que les gens en fait, si tu ne vas pas les chercher... Si tu ne vas pas les chercher, prendre le temps de leur parler, ils ne vont pas te révéler ces informations très spontanément. Parfois, en fait, il y a des gens qui sont agressés, mais qui ont honte d'être agressés. Donc, ils vont le cacher. Ou elles vont essayer de montrer qu'elles sont fortes. Donc, c'est très difficile pour les gens de dire spontanément « Oui, j'ai été agressé » ou « J'ai été insulté ». Je donne un exemple d'un ami. C'est l'ancien président de mon association. Il s'appelle Sacha, il m'en a parlé il y a quelques années. Son fils avait 4 ans, il était à la maternelle, il est habituellement très très joyeux, toujours très bavard, enfin comme les gamins quoi. Et un jour, le fils rentre à la maison, il ne parle plus, il reste dans son coin. Alors bon, les parents s'inquiètent, donc mon ami va jouer un peu avec son fils et lui demander qu'est-ce qui se passe, parce que il sent qu'il y a quelque chose d'assez étrange. Et bon, en creusant, il a compris que son fils, en fait, a eu une très mauvaise expérience à l'école, à la maternelle. Il y avait un autre camarade de l'école qui jouait avec lui, et tout d'un coup, un matin, il ne veut plus jouer avec le fils et il le pousse. Il lui dit « Non, je ne veux pas jouer avec toi, petit chinois. » Donc, Donc le fils n'a pas reçu de claque, il n'a pas reçu de coup de poing ni de coup de pied. Mais c'est le fait qu'un copain, un beau matin, le repousse et lui dise « je ne veux pas jouer avec toi, petit chinois », qui l'a blessé en fait. Et depuis ce jour, le fils, il se tait, il est dans le silence. Et ça, c'est quelque chose d'assez blessant même pour le père. Parce que son père se dit « mon fils, on ne veut plus jouer avec lui parce qu'il est chinois ». Il y a un camarade de classe qui lui a dit ça. Il y en a certains qui sont peut-être au courant. À Bervilliers, il y a un monsieur dans la rue l'été dernier qui s'était fait agresser et qui en est mort parce que des gens pensaient qu'il avait de l'argent sur lui. Et parce qu'il est chinois et donc il a de l'argent sur lui, il ne va pas se défendre. Et donc des gens l'ont agressé. Donc le monsieur est mort. Ça, c'était l'an dernier. Et il y a des gens qui pensent, qui disent que les Chinois, ils ont de l'argent, ils ne vont pas se défendre. Et tu vois, c'est toutes ces choses, on se dit des choses sur les gens. Voilà, on se dit que lui, il est comme ci, il est comme ça. Même si on ne le connaît pas, au fond, ce sont des préjugés. Ce sont des préjugés qui ont tué quelqu'un. Il y a souvent des clichés positifs, mais en fait, les clichés positifs sont aussi des clichés, et parfois, ça peut être très nuisible. Notamment quand on dit, oui, les Chinois sont silencieux. Les Chinois sont calmes. Les Chinois font pas de bruit. Les Chinois font pas de problème. Et si on dit que les Chinois font pas de bruit, font pas de problème, qu'ils sont calmes, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui font du bruit, qui sont pas calmes et qui font des problèmes. Vous voyez ? Et on dit que les Chinois sont travailleurs. Ça veut dire que d'autres ne sont pas travailleurs, d'une part, et ça veut dire que les Chinois, ils pensent pas à faire autre chose que le travail. C'est ça aussi le racisme. C'est-à-dire qu'on dit, oui, voilà, je sais même pas qui tu es. Je me dis, t'es un Chinois, ou t'es un Arabe, ou t'es un Blanc, ou t'es un Noir, donc tu es comme ci, comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas autre chose. Et ça réduit beaucoup ta personnalité.
Est-ce qu'il y a des actualités, des fêtes qui arrivent prochainement ?
Alors, on a envie d'organiser des petites fêtes, en fait, de quartier, probablement à la Courneuve et peut-être un peu à Aubervilliers. Ce sont des fêtes dans lesquelles, en fait, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des Chinois, pas que des Arabes, mais il faut des Chinois et des Arabes, des Noirs et tout ça. Parce que, en fait, dans ces fêtes, les gens peuvent se connaître. Et une fois qu'ils se connaissent, bah, ils vont devenir amis ou ils vont faire autre chose ensemble, sans nous, hein, mais c'est l'objectif. Parfois, en fait, les gens s'agressent parce qu'ils ne se connaissent pas.
Merci beaucoup à Rui Wong d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez plus d'informations sur son association, allez sur le site www.lajcf.fr ou alors sur leur page Facebook, Association des jeunes chinois de France.
Et on se retrouve avec Franck qui va maintenant nous parler de l'origine du mot bamboula dans sa chronique.
Alors, bamboula signifie à l'origine un tambour africain. Ce mot a fait polémique lors de l'agression du jeune noir, Théo, par des policiers. Il y a quelques semaines, un policier aurait utilisé ce mot lors de l'interpellation de Théo. Le 9 février, sur la chaîne de France 5, un syndicaliste policier a dit que ce mot est assez convenable, alors que ce mot est très péjoratif et très insultant.
Cette jeune fille qui disait on se fait contrôler, on se fait traiter de bamboula, on se fait cracher dessus, peut-être que cette jeune fille affabule. Il y a aussi cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça.
Mais la version, j'ai la même. J'ai la même. Et je veux rester poli, mais j'ai la même. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable.
Non.
La première utilisation de ce mot remonte au 15e siècle en Guinée portugaise. Ça se prononçait Kumambulan ou Kambamboulou. Bamboula, ça signifie aussi une danse africaine. Au XVIIIe siècle, en Côte d'Ivoire, le mot voulait dire une danse de nègres. Mais c'est en 1914, avec l'arrivée des soldats sénégalais sur le front, que le terme se charge de confusion. Le mot renvoie alors à une image de la sauvagerie, du cannibalisme et rigolote, pour désigner les Noirs. Le soldat sénégalais, un personnage à la fois violent et rigolo dans l'esprit de l'époque, menace par exemple les soldats allemands de viol.
Et dis-moi Franck, est-ce qu'on peut insulter quelqu'un de bamboula ?
En France, vers les années 80, une marque de...
Une pause. Ah ok. C'est pas grave.
En France, vers les années 80, une marque de gâteaux bamboula de la biscuiterie Saint-Michel était des gâteaux au chocolat avec pour mascotte un petit garçon noir vivant en Bamboulande et la biscuiterie a même créé un village Bamboula dont la publicité évoquait un zoo humain. À la suite des plaintes, le biscuit Bamboula disparaîtra au début des années 90.
Et dis-moi Franck, est-ce qu'on peut insulter quelqu'un de Bamboula ?
Non, ce n'est pas convenable et c'est une insulte raciste et donc on peut être puni par la loi.
Merci Franck, on va se retrouver juste après cette petite pause. Voici là.
Je vous propose d'écouter Kerry James, surnommé Daddy Kerry. C'est un des rappeurs français les plus connus. Il a été membre d'Idéal J et de la mafia Kinfri. Il s'est aussi beaucoup mobilisé pour la mort d'Adama dans des concerts de soutien à la famille. On écoute tout de suite son titre « Lettre à la République » sorti en 2012.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tout vous compacte. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
On vient d'écouter Lettre à la République de Kerry James. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 avec l'émission Auberge d'Escrime.
Je laisse à présent le micro à Sophia qui va nous présenter notre visite du musée.
Wesh les gens,
C'est pour vous présenter le petit reportage qu'on a fait. Le collège Rosa Luxembourg et la classe de 4e B, le 2 mars, on est allé pour visiter le musée de l'histoire de l'immigration avec notre guide Lisa, dans le 12e arrondissement de Paris. On vous propose d'écouter cette visite qu'on a enregistrée.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, où sommes-nous ?
Nous sommes au musée de l'immigration. Nous allons ici visiter le musée et aussi nous allons faire des interviews.
Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, il n'y a aucun souci, vous m'arrêtez. Et puis quand vous avez des questions, je suis là pour répondre aux questions. Alors, on va monter. Alors, donc on est dans ce musée d'immigration. Je vais juste vous dire comment ce musée est né. En fait, dans les années 90, en France, il y a pas mal de professeurs d'histoire, professeurs de sociologie, professeurs de sciences politiques, des associations qui valorisent l'histoire de l'immigration, qui accueillent les étrangers en France. Et tout ce monde-là va revendiquer qu'il existe un lieu dédié à la mémoire de l'immigration. Parce que, vous allez le voir, la France, c'est un pays d'immigration important, mais on a longtemps oublié cette histoire. Donc, c'était important de valoriser cette histoire et de la faire connaître. Et donc, on a fait une enquête pour savoir si c'était pertinent d'avoir un lieu dédié à l'histoire, la mémoire de l'immigration. Et l'enquête, elle a répondu que oui. Oui, pourquoi ? Ben, pour faire connaître cette histoire qui était mal connue, mais d'autre part aussi pour lutter contre des idées reçues, des stéréotypes, on va revenir sur tout ça, qui sont liés à l'histoire de l'immigration. Oui ? Oui, c'est pour avoir une illustration.
Donc Thelma, j'aimerais savoir si tu pourrais nous expliquer, nous sommes devant quoi ici présent dans le musée d'immigration ?
Nous sommes devant une télé, si on peut dire ça comme ça, qu'on voit un monsieur qui raconte comment il a découvert la musique, grâce à qui et comment il a aimé ça.
Je vais vous faire écouter un petit extrait.
Ce que j'avais appris, je pensais à l'air que l'on respirait au printemps, à l'hiver. Au Mexique, il n'y a pas de saison. En France, il y en a. Et je pensais à ce que la... Enfin, je ne le pensais pas d'une façon théorique. Je pensais à tel ou tel auteur ou peintre ou chansonnier qui m'avait frappé. Et au Mexique, on écoutait avec émotion des disques, et en particulier des disques avec gramophone. On écoutait les chansons de Trenet, de Tino Rossi, je dois avouer même de Maurice Chevalier. Et bon, ces chansons me sont restées. Alors... je chante soir et matin, je chante.
Le racisme peut engendrer de la discrimination. On va revenir sur la discrimination plus tard. Oui ?
C'est le fait de penser qu'il y a des races, qu'il y en a, ils sont supérieurs aux autres.
Oui, le racisme, c'est penser qu'il y a des races, des catégories exactement, de populations qui seraient plus ou moins évoluées. Et on va voir, on va regarder de ce côté-là. On va regarder cette vitrine. Alors, on se recule un tout petit peu comme ça. Tout le monde peut voir. Ce n'est pas... Ouais. On va même s'asseoir, comme ça vous verrez tous. On s'assoit ?
Allez, on s'assoit. Pas vous les techniciens.
Allez, on va regarder le personnage noir, la dame noire. Vous voyez ? Qui est tout là-bas. Donc ça, ce jeu de marionnettes, c'est un jeu de marionnettes qui date à peu près de 1930. Et en 1930, les marionnettes, c'est des spectacles qui est assez courant dans les villages, dans les villes. On fait des jeux de représentation de marionnettes. Il y a moins le cinéma comme aujourd'hui, il n'y a pas la télé. Donc c'est une forme de spectacle, les marionnettes. Et comment on fait jouer ce personnage noir, cette dame noire, comment on l'a fait... Comment on l'a fait jouer ? Qu'est-ce qu'elle représente, d'après vous ?
Les bouts de bois en haut.
Alors ça, c'est pour les bouts de bois, c'est pour faire bouger le personnage, en fait. C'est Alors, le rôle qu'on lui donnait, c'était quoi? Dans les années 30, comment on la faisait jouer, cette dame? Quel rôle elle avait?
Le nègre marionnette à tringle et à fils. Début du XXe siècle. Si la femme noire est caricaturée comme incarnant la belle sauvage, l'homme noir est souvent représenté dans une fonction clownesque. Cette marionnette, utilisée jusqu'en 1935, reprend l'image de l'homme noir hilar.
Dans l'opinion, l'association entre immigrés et pauvreté aggrave la crainte des nouveaux venus. Associé au mythe de l'invasion lié à la perception de l'immigration pendant les moments de crise,
l'insécurité ressentie concourt à fixer l'image du migrant délinquant ou violent. Dans les années 1970, les immigrés maghrébins deviennent les boucs émissaires de la crise économique et sont les victimes d'une série d'exactions malgré la loi du 1er juillet 1972 qui fait du racisme un délit.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un capitaine, donc un militaire français qui s'appelle Dreyfus? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Alors, Dreyfus était un capitaine français qui va être accusé à ce moment-là d'avoir donné des renseignements à l'armée allemande. Parce que il est juif et il faut trouver un peu un bouc émissaire. Et à cette époque-là, ce journal, il est antisémite. Il est contre les juifs. Et les stéréotypes contre les juifs se développent de façon très importante dans les années 1890. Et donc, c'est un peu le coupable idéal.
L'usurier, marionnette à la gaine. Les juifs citoyens français depuis la Révolution sont néanmoins souvent stigmatisés comme étant étrangers à la nation.
Nous avons écouté le reportage au musée de la Porte Dorée. On vous conseille d'y aller parce que c'est d'art. Et en plus, c'est gratuit au moins de 26 ans. Et c'est ouvert du mardi au dimanche. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus d'informations en allant sur le site du musée www.palais-portedorée.fr.
Merci Sophia. Maintenant, c'est au tour de Ahmed de nous présenter l'interview de Nihad Janaïd.
Salam alaikum, ça va la baisse? Je m'appelle Ahmed Machali. Aujourd'hui, c'est El Sept, samedi en arabe. Je vais vous présenter l'interview de Nihad Janaïd, qui s'occupe de la médiathèque du musée de l'histoire de l'immigration. Elle donne le prix littéraire de la Porte Dorée, un prix qui choisit le meilleur livre sur le thème de l'exil et l'immigration et qui récompense chaque année un roman ou un récit.
Pouvez-vous nous présenter la médiathèque de...
C'est un endroit où il y a des livres, il y a des DVD, il y a des revues, il y a aussi des films, des magazines, des BD, des livres pour la jeunesse. La médiathèque de la Porte Dorée est ouverte au public, c'est-à-dire ouverte au prêt. Vous pouvez venir vous inscrire ici, emprunter des livres. Vous pouvez venir consulter les ouvrages sur place. C'est une médiathèque qui porte le nom d'un sociologue d'origine algérienne qui est décédé, Abdelmalek Sayad. Et la médiathèque est ouverte à tout le monde, y compris aux jeunes comme vous.
Votre travail consiste à quoi ?
Mon travail consiste à faire plusieurs tâches. D'abord, sélectionner les romans qui vont concourir pour avoir le prix. Ensuite, animer un comité de lecture pour ces romans, prendre des contacts avec les maisons d'édition, les membres du jury qui va choisir le roman, lauréat du prix. Ensuite, aussi, ça fait partie de mes tâches, animer des cafés littéraires.
Est-ce que vous pouvez préciser ?
Le café littéraire est une rencontre entre un auteur ou deux et un public, des gens qui viennent écouter ces auteurs, qui leur posent des questions, qui ont lu en général les romans avant de venir. La rencontre se passe ici, dans cet espace, là où vous êtes. Ça n'est pas mon premier métier. Moi, j'étais professeure avant. J'étais professeure d'arabe. J'ai enseigné à des collégiens, lycéens, des normaliens, à la fac. J'étais aussi traductrice. Et j'ai fait d'autres métiers dans d'autres musées avant d'arriver ici.
Quelle est la récompense quand vous décernez le prix ?
Le lauréat ou la lauréate du prix, c'est pas moi qui décide qui va avoir le prix. C'est un jury qui est indépendant et les personnes membres de ce jury ne travaillent pas dans le musée. Et le prix est une somme d'argent, 4000 euros, qu'on donne à ce lauréat ou à cette future lauréate tous les ans.
Est-ce que les livres que vous, qui vous récompensez, est-ce qu'on peut les retrouver en bibliothèque?
Oui, les livres qui sont en lice pour le prix sont sortis soit en septembre, la rentrée de septembre, soit à la rentrée de janvier. Il y a deux rentrées littéraires chaque année, septembre et janvier. Et quand je dis septembre, ça ne veut pas dire forcément en septembre. Ça peut sortir début octobre, ça peut sortir au mois de juin. En tout cas, les livres qu'on choisit à lire sur ce thème et qui sont en lice pour le prix doivent être donc sortis entre juin de 2016 et mars 2017, c'est-à-dire c'est limité dans le temps. Et tu peux les trouver en librairie et parfois dans certaines médiathèques. Très vite, ils sont disponibles.
Qui a gagné le dernier prix littéraire? Avec quel roman?
Alors, la lauréate de l'année dernière s'appelle Doan Bui. Elle est journaliste. Et elle est d'origine vietnamienne et elle a gagné le prix avec son roman qui s'intitule Le silence de mon père.
J'aimerais savoir c'est qui donne le prix.
Qui donne le prix c'est un jury. Le jury est nouveau pour cette année. Il y a 9 membres du jury, dont 2 délégués de classe de lycée qui lisent les ouvrages avec nous et qui viennent participer aux délibérations. Vous savez ce que c'est une délibération ? Ce sont des réunions où les membres du jury se réunissent pour discuter à qui donner le prix. Il y a 2 réunions avant la remise de prix. Et donc, lors de ces délibérations, il y a le président du jury, les 6 membres du jury, qui sont des journalistes, critiques littéraires. Il y a un professeur d'université, spécialiste de la littérature d'exil et d'immigration, mais surtout d'exil, et 2 délégués de classe de lycée.
Quand a lieu la remise de lauréat?
La remise du prix de cette édition 2017 aura lieu le jeudi 8 juin, ici au Palais.
C'était Nihad Janaïd au micro de notre émission à la médiathèque. Merci à elle d'avoir répondu à nos questions. Et pour ceux que ça intéresse, la médiathèque est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et aussi le samedi jusqu'à 19h. En plus, c'est aussi gratuit pour les jeunes, alors n'hésitez pas.
Merci Ahmed. Et si on veut plus d'infos, on fait comment?
On peut aller sur le site de la médiathèque, médiathèque.sayed@palaisportedoré.fr ou appeler au 01 53 59 15 92.
Arigato gozaimasu. On laisse maintenant place à la poésie avec Yaya.
Et maintenant, place au poète dans l'émission Aubert d'Escrime. Je vais vous présenter la lecture de L'étranger, un poème de Charles Baudelaire.
L'étranger. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique? Dis, ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère?
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis?
Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie?
J'ignore sous quelle latitude est-elle située.
La beauté.
Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.
L'or.
Je le hais comme vous haïssez Dieu.
Et que m'as-tu donc extraordinaire étranger?
J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
C'est la fin de l'émission Aubert Discrim. Remerciements à Wei Wang, Noufel et Nihat Janaïd pour avoir accepté de répondre à nos questions. Thanks au Musée de National de l'Histoire de l'Immigration de nous accueillir aujourd'hui. Gracias au professeur de nous accompagner et merci à Chia et Yaya à la réalisation. C'est l'heure des dédicaces, Thelma peut commencer.
Dédicace à toute ma famille, à Tristan, à tous les gens d'Aubervilliers et à Radio Campus Paris.
Sokona.
Dédicace au Traoré et au Collège Rosa Luxembourg.
Sophia.
Dédicace au Landiland et à Aubert Discrim.
Ahmed.
Dédicace au Collège Rosa, à Clash Royale et à Dukin Bottle.
Voici là.
Dédicace à Mathilde, Tristan et tous les professeurs du Collège Rosa Luxembourg et aussi un grand merci à l'équipe de l'œil à l'écoute.
Ayoub.
Dédicace à Mathilde, Tristan, Madame Saint-James, Madame Bourgeois, Madame Fio et Madame Ben Boubaker. Et aussi dédicace aux Marocains et aux Algériens.
Franck.
Dédicace aux dames du CD qui nous ont aidés tout au long du projet radio.
Dédicace à mon refrain Faisal et dédicace à l'Algérie et au Maroc. Merci d'avoir suivi notre émission et au revoir. On se quitte sur ce poème de Jacques Prévert. Étrange étranger avec Palladio, une musique de Carl Jenkins. Et oublie pas que vos darons elles boivent du Sprite, Shibatama. Beslama. Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel.
Hommes des pays loin.
Cobayes et des colonies.
Doux petits musiciens.
Soleil adolescent de la porte d'Italie.
Boumian de la porte de Saint-Ouen.
Apatride d'Aubervilliers.
Brûleur des gros d'ordures de la ville de Paris.
Ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied.
Au beau milieu des rues.
Tunisien de Grenelle.
Embauché débauché.
Manœuvre désœuvrée.
Polac du Marais du Temple des Rosiers.
Cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone.
Pêcheur des Baléares ou bien du Finistère.
Rescapé des Franco.
Et déporté de France et de Navarre.
Pour avoir défendu en souvenir de la vôtre.
La liberté des autres.
Esclave noir de Fréjus.
Tiraillé et parqué.
Au bord d'une petite mer.
Où peuvent-vous baigner?
Esclave noir de Fréjus.
Qui évoquait chaque soir.
Dans les locaux disciplinaires.
Avec une vieille boîte à cigares.
Et quelques bouts de fil de fer.
Tous les échos de vos villages.
Tous les oiseaux de vos forêts.
Et ne venez dans la capitale.
Que pour fêter au pas cadencé.
La prise de la Bastille, le 14 juillet.
Enfants du Sénégal.
Des patriés expatriés et naturalisés.
Enfants indochinois.
Jongleurs aux innocents couteaux.
Qui vendit autrefois aux terrasses des cafés.
De jolis dragons d'or faits de papier plié.
Enfants trop tôt grandis et si vite en main.
Qui dormaient aujourd'hui de retour au pays.
Le visage dans la terre.
Et des bombes incendiaires labourant vos rizières.
On vous a renvoyé.
La monnaie de vos papiers dorés.
On vous a retourné.
Vos petits couteaux dans le dos.
Étrange étranger.
Vous êtes de la ville.
Vous êtes de sa vie.
Même si mal en vivez.
Même si vous en mourrez.
Étrange étranger, Jacques Prévert.
Certains font de la musique pour gagner de la monnaie. Moi j'en fais pour que tu puisses réaliser. De jour en jour nous piétinons nos rêves. Un à un, ils sont en train de nous écraser. Mais réalise qu'à cause de nos actes le monde crève. Des familles ne trouvent jamais rien à manger. Les jeunes d'aujourd'hui respirent de plus en plus la haine. N'augmentent pas les salaires mais ils augmentent les loyers. J'ai à ta couleur de peau. On est en France, mais ils te voient comme un étranger. Comme si au Seine, ici, c'est chacun pour sa peau. Ils cherchaient la paix, mais c'est le contraire qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, tu nous allies, tu nous imposes. La défiance règne et colonise nos cités. Chaque jour, j'observe et interprète les choses. Et quand je vois tout ça, ce que j'aimerais, c'est partir. partir, au lieu n'attend personne. Oubliez ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oubliez ma vie, allez, veillez-moi. Partir, non, partir, où plus rien ne m'étonne. Oubliez un peu l'hypocrisie des hommes. Partir, redessiner la réalité. Certains se croient forts et veulent jouer leurs indépendants. Ruinent leur vie et ont oublié certains de leurs proches. Marre de toujours entendre le même slogan. Le temps c'est de l'argent, donc surveille bien ton horloge. Trop naïf, tu les crois honnêtes et pourtant ils ont assez de cran pour aller briser le cœur d'un homme. Trop possessif, tu veux tout et pour toi seulement. T'embrasses ton argent, ton voisin n'a rien dans les poches. Il est grand temps de changer de paysage. Cet endroit m'a abîmé. Il me suggère de me faire oublier. Partir, partir, ne m'attend personne. Oublier ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oublier ma vie. Partir, moins partir, où plus rien ne m'étonne. Oublier un peu l'hypocrisie des hommes. Partir, redessiner la vie. Pas forcé, ouais. Je pense au blême à ma mère, car y'a que là-bas que je la vois le sourire aux lèvres. Pas stressé, apaisé, yeah. Oh, oh, oh. Partir, partir, où ne m'attend personne. Oublier ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oublier ma vie. Partir, loin, partir, où plus rien ne m'étonne. Ne m'attend personne. Oubliez ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oubliez ma vie. Partir, loin, partir, où plus rien ne m'étonne. Oubliez un peu l'hypocrisie des hommes. Partir, redessiner la vie. Partir là-bas, je déploie mes ailes pour aller m'exiler là-bas. Où partir là-bas, je déploie mes ailes pour aller m'exiler là-bas. Partir là-bas, partir là-bas, je déploie mes ailes pour aller m'exiler là-bas. Partir là-bas. Je déploie mes ailes pour aller m'exiler là-bas. Partir là-bas.